aujourd'hui, le mariage.
Qu'il s'agisse du grand mariage en fanfare avec robe blanche à froufrou, gâteau de 6 mètres de haut que le serveur il se dit putain, mais comment je vais faire pour couper ça? Ou du petit mariage à la mairie, envoyé vite fait bien fait c'est pesé avec un repas au resto, histoire que les témoins ils soient pas venus pour rien, puis qu'après ils fassent pas la gueule une fois la cérémonie terminée. Le mariage donc, tout le monde y a pensé. Alors il y a ceux qui sont pour le grand mariage à l'église, hein, on sait, mais alors je vois pas pourquoi je le montrerai pas à tout le monde. Ceux qui sont contre, le mariage de toute façon c'est comme pisser dans un violon, ça fait plaisir 5 minutes puis après tu te rends compte que t'as tout bousillé, et pour faire marcher la garantie, tu peux toujours le gratter, je t'en parle même pas. Et puis il y a ceux qui sont ni vraiment pour, ni vraiment contre, ceux-là on les appelle les ni courts, ni pontres, ni soumises, et alors ils se marient pour payer moins d'impôts et puis au moins ils font chier personne.
Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin.
La vie de couple peut être vécue de deux façons différentes. La première est une sorte d'association familiale où chaque conjoint garde une certaine autonomie, alors que dans le second cas, ils vont chercher à créer des liens affectifs et solidaires très denses entre eux. Dans ce que l'on appelle les couples fusionnels, il y a généralement une division stricte du travail. Toi, tu fais le ménage et tu t'occupes des gosses, moi je ramène l'argent à la maison. Les couples qui privilégient l'autonomie favorisent une répartition plus équitable des tâches quotidiennes. Cela dit, la plupart des couples ne fonctionnent pas d'une manière aussi tranchée et cherchent à combiner l'union et l'indépendance. Ainsi, on peut observer une certaine fusion sur le plan financier, sur le temps et les sentiments, et une liberté sur les idées et les croyances des deux partenaires.
À partir de la fin du 19e siècle, les hommes ne passent plus 25 heures par jour à la mine à extirper du charbon ou dans un champ à labourer une terre qui ne leur appartient pas. Ils ont donc un peu plus de temps libre, même si évidemment ce n'est pas comparable avec aujourd'hui, ils étaient beaucoup moins feignants à l'époque. Ils vont donc profiter de ce temps libre pour sortir du cercle familial. Alors certains iront au café jouer à la belote et perdre par la même occasion les économies pour les études de leur enfant, d'autres iront faire du sport entre amis et d'aucuns iront boire comme des trous en dépensant les économies pour l'éducation de leur enfant. Quand ils rentrent chez eux, une flaque de vomi grosse comme un macaron sur le devant de leur veste, ils se font vertement souffler dans les bronches par leurs épouses. Et qu'est-ce que tu peux bien foutre avec ces poivrots, Jésus, Marie, Joseph, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir de plus que moi et que t'iras leur dire qu'ils te lavent tes slips mouillés d'urine, j'en passe des vertes et des pas mûres.
À cette époque donc, les femmes, qui n'ont d'autre domaine que celui de la famille, vont chercher à territorialiser leur mari. C'est-à-dire qu'elles vont faire en sorte que les activités de leur mari ne dépassent pas le cadre familial. Ils vont alors s'adonner à des activités comme le bricolage et le jardinage. Quand elles y arrivent, la famille fonctionne alors sur le mode de la fusion. Les hommes et les femmes ont généralement des activités différentes, mais ils les réalisent dans le cercle familial. La vie privée personnelle se confond alors avec la vie privée familiale.
C'est à partir des années 60 que les femmes vont avoir à leur tour une vie indépendante et personnelle. Tout comme les hommes, elles pourront travailler, sortir avec leurs amis, aller dans des boîtes de striptease ou au bar faire des concours de celui qui vomira le plus loin. Ainsi, on observe une rupture entre le privé personnel et le privé familial, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Les conjoints refusent la dépendance mais acceptent certaines règles de vie commune.
Pour conclure, nous citerons Pierre Véron qui a dit « Un mois avant le mariage, il parle, elle écoute. Un mois après le mariage, elle parle, il écoute. » 10 ans après le mariage, ils parlent en même temps et les voisins écoutent.
À bientôt sur Divergence FM.